Je vois que vous êtes tous attentifs. Très bien. Je vous souhaite la bienvenue pour notre culte ce matin. Le premier verset du livre de la Genèse dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». L'évangile de Jean, quant à lui, annonce « Au commencement était la parole ». Ce matin, nous nous sommes arrêtés pour écrire cette parole au commencement de notre vie. Cette parole qui dit notre naissance, et notre destination, notre espérance et notre vocation, que la grâce de l'écoute nous soit donnée. Et nous chantons le premier spontané, c'est le 627, et nous chantons la première strophe. Cela au jour suivant. Chaque nuit, il fait connaître à la nuit qui le suit. Ce n'est pas un discours. Il n'y a pas de parole. Aucun son ne se fait entendre. Mais leur message parcourt la terre. Il se répand jusqu'au bout du monde. Là où Dieu a planté une tente pour le soleil, le matin, celui-ci est comme un jeune marié qui sort de sa maison. Il s'élance comme un champion heureux de courir sur la route. Il se lève à un bout de ciel, il termine sa course à l'autre bout et rien n'échappe à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, elle redonne la vie. Les ordres du Seigneur sont clairs, il donne la sagesse aux ignorants. Les exigences du Seigneur sont justes, elles rendent le cœur joyeux. Les commandements du Seigneur donnent la lumière. Ils permettent de voir clair. Le respect du Seigneur est une chose très belle. Elle reste sans cesse valable. Les décisions du Seigneur sont vraies. Elles sont toujours justes. Elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or pur. Elles sont plus délicieuses que le miel le plus doux. Aussi tes décisions m'avertissent, moi ton serviteur. Si je les garde, j'aurai une belle récompense. Qui peut connaître ses erreurs? Pardonne-moi les fautes que je ne vois pas. Éloigne-moi des orgueilleux qui n'aient aucune influence sur moi. Ainsi je serai sans défaut. On ne pourra pas m'accuser de fautes graves. Qu'elles te fassent plaisir, les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Seigneur, mon solide rocher, mon défenseur. Et nous chantons au 249, béni soit le Seigneur, la première, la deuxième et la troisième strophe.
Son amour est
Seigneur, encore ce matin, nous voulons te dire notre peur et notre angoisse devant le mal et la souffrance du monde. Te dire aussi notre honte et notre confusion, parce que nos propres fautes prolongent et augmentent cette souffrance. Pardonne-nous, Seigneur, d'agir si naturellement comme des égoïstes, et de ne pas aimer notre prochain avec l'ardeur, le respect et l'attention qu'avait Jésus. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te servir. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter au 417 la première strophe.
Tu peux naître le lobo, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée, et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger.
Écoutons cette parole qui nous relève, cette parole qui nous pardonne. De ceux qui étaient séparés, il n'a fait qu'un. Il a renversé les murs de séparation. Par sa mort, il nous a réconciliés en un seul corps. Et avec Dieu. Pour quiconque se répand et croit, il y a promesse de réconciliation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ayant reçu le pardon de Dieu, il nous reste à nous saisir de cette parole et de la conduire de nos oreilles à notre cœur, de notre écoute à nos pensées, de notre tête à nos mains et à nos pieds. Nous chantons debout la deuxième fois.
Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire.
Écoutons la volonté de Dieu pour notre vie. Dieu est amour. Si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu et Dieu vit en lui. Si l'amour est parfait en nous, nous pouvons être pleins de confiance pour le jour où Dieu nous jugera. Pourquoi ? Parce que notre vie dans le monde ressemble à celle de Jésus-Christ. Quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait chasse la peur. En fait, on a peur quand on attend une punition. Celui qui a peur n'aime donc pas de façon parfaite. Mais nous nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et s'il déteste son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas un frère et une sœur qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici le commandement que Dieu nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère et sa sœur. Et nous chantons la troisième strophe, toujours du 417.
Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro avec Jésus pour
Nous allons maintenant ouvrir la Bible, mais avant de ce faire, nous demandons à Dieu dans la prière de nous éclairer et de nous aider à comprendre. Seigneur, nous t'en prions, donne-nous d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'écriture que nous allons écouter devienne bonne nouvelle pour nos vies. Amen.
Première lecture que nous faisons est dans la lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, le verset 12 et ensuite les versets 18 à 20. Certains d'entre vous disent « Tout m'est permis ». Oui, cependant, tout ne vous est pas bon. Je pourrais dire « Tout m'est permis », mais je ne vais pas me laisser réduire en esclavage par quoi que ce soit. Fuyez l'immoralité. Tout autre péché que commet un homme reste extérieur à son corps, mais l'homme qui se livre à l'immoralité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, cet Esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné? Vous ne vous appartenez pas à vous-même, Dieu vous a acquis, il a payé le prix pour cela. Utilisez donc votre corps pour la gloire de Dieu. Nous lisons ensuite dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, les versets 13 à 25. La fête juive de la Pâque était proche et Jésus alla donc à Jérusalem. Dans le temple, il trouva des gens qui vendaient des bœufs, des moutons et des pigeons. Il trouva aussi des changeurs d'argent assis à leur table. Alors, il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous hors du temple avec leurs moutons, leurs bœufs, et il jeta par terre l'argent des changeurs, renversa leur table et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent ces paroles de l'Écriture, « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, me consumera comme un feu. » Alors les chefs juifs lui demandèrent, « Quel miracle peux-tu faire pour nous prouver que tu as le droit d'agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. On a mis 46 ans pour bâtir ce temple, et toi tu vas le rebâtir en 3 jours, lui dirent-ils. Mais le temple dont Jésus parlait était son corps. Quand Jésus revint de la mort à la vie, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et aux paroles que Jésus avait dites. Pendant que Jésus était à Jérusalem au moment de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux. parce qu'il les connaissait tous très bien. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qu'il y a dans leur cœur.
Je vous invite à vous lever pour chanter au 427. 427, la première citation. Faire basculer quand la route semble toute tracée. Ce sont des questions qu'on peut se poser pour sa vie personnelle, mais aussi en politique et dans le domaine de l'économie. Quand à 35 jours de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon promet une insurrection civique, en voulant prendre la Bastille à Paris un 18 mars, date anniversaire du début du soulèvement de la Commune de Paris en 1871. Quand les Verts dessinent comme prioritaire une sortie du nucléaire, alors que tout notre système énergétique est bâti sur cette forme de production d'électricité. Peut-on encore changer les choses? Peut-on tout faire basculer quand la route semble tout tracée? C'est peut-être aussi la question quand Jésus de Nazareth entre dans le temple de Jérusalem et se met en colère. Quand sa passion pour le temple le dévore comme un feu. Quand il saisit la corde pour s'en faire un fouet et pour chasser les marchands du temple. Aux yeux du peuple et au regard du système religieux établi, c'est un scandale. C'est d'un irrespect choquant. C'est un scandale parce que tout ce qui est en place sur le parvis du temple est si bien rodé pour faire face aux besoins d'un tel lieu. Et tout particulièrement à la Pâque. Les pèlerins affluent de tout l'Empire, ils veulent venir offrir les sacrifices rituels qui leur sont ordonnés par la loi de l'Ancien Testament. Et il faut bien les accueillir. Leur offrir la possibilité d'acheter ce qui leur est nécessaire à l'accomplissement de leur pèlerinage. Les hôtels, les auberges sont pleines, les marchés font leur chiffre d'affaires du mois. Et les marchands de bétail réservent leurs bêtes pour cet événement. C'est la fête, on se pousse, on se presse, on se bouscule pour voir, pour entendre, pour vivre l'événement. Et voilà ce trublion qui vient tout mettre par terre. Certains pèlerins ont fait des centaines de kilomètres pour venir au temple. C'est peut-être l'occasion dont ils ont rêvé toute leur vie, pour tout lâcher à la maison, pour venir à Jérusalem. Et voilà ce prophète qui dit que ce temple peut être détruit, qu'il en reconstruirait un autre. C'est tout simplement inadmissible. Un autre avant lui avait déjà essayé de parler au nom du Seigneur contre le temple. C'était le prophète Jérémie. Il disait que, à cause de la méchanceté de son peuple, il était prêt à tenir le temple de Jérusalem pour rien. Il était prêt même à le détruire. Ce Jérémie avait bien failli se faire mettre à mort. On ne touche pas au temple. Si Jésus agissait de la même façon aujourd'hui, ce serait un scandale. Mais tout d'abord, c'est quoi le temple aujourd'hui? Pour nous chrétiens, depuis que le temple de Jérusalem a été détruit, Il n'en reste plus que deux. Le premier temple, c'est Jésus lui-même. Le temple détruit et reconstruit en 3 jours, c'est le corps du Christ. Et par conséquent, aujourd'hui, ce temple, c'est l'Église, puisque l'Église, c'est le corps du Christ. Quant au deuxième temple, c'est nous. Quand Paul affirme aux Corinthiens, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous, c'est une invitation à considérer que nous sommes le temple de Dieu collectivement, mais aussi individuellement. Le temple, c'est le lieu où on venait offrir un sacrifice pour se réconcilier dans le pardon de Dieu. Aujourd'hui, c'est dans l'Église et en nous que s'accomplit le seul et unique sacrifice dans l'alliance autorisée. Quand on mange le pain, quand on boit le vin, en mémoire de Jésus mort et ressuscité en 3 jours et vivant pour nous aujourd'hui. Alors en tant qu'Église, sommes-nous concernés par le reproche de Jésus, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce? Dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, après avoir chassé les marchands, Jésus ajoute cette citation de l'Ancien Testament. Ma maison sera appelée une maison de prière. Est-ce qu'il nous arrive de faire de notre église une maison de commerce à la place d'une maison de prière? On pourrait évidemment penser à notre kermesse. On pourrait penser aussi aux appels financiers qui se font parfois un peu trop pressants pour certains et qui risquent de masquer le spirituel. Le commerce n'est pas négatif en soi. Sans commerce, sans économie, pas d'échange, pas de vie, pas d'organisation possible. Mais comme nous avons vu ces dernières années, quand le commerce prend le dessus, quand il ne met plus l'humain au centre, quand il s'érige en idole et exige notre adoration ou notre soumission totale, nous devons, comme Jésus, faire entendre notre voix et nous élever pour les plus faibles. Nos églises, en ce sens, ne sont pas hors du monde. Elles essayent de rappeler, par exemple, aux candidats la responsabilité pour le destin de l'humanité. Elles interpellent la politique sur des thèmes fondamentaux comme la liberté, la sécurité, la crise financière, la justice, la laïcité, l'accueil des étrangers, le développement, la dépendance et la fin de vie. Elles ne sont pas hors du monde non plus parce qu'elles doivent elles-mêmes s'organiser pour vivre, se financer, s'administrer en tenant compte de certaines contraintes matérielles. C'est d'ailleurs ce que nous allons voir ensemble à l'Assemblée Générale la semaine prochaine à Bayonne. Si Jésus débarquait et venait jeter à terre les paniers pour la collecte, les réserves financières, les salaires des pasteurs et autres kermesses paroissiales, pariant que plus d'un parmi nous serait choqué par une telle intervention. Notre Église pourrait-elle survivre sans son organisation et ses finances? À quoi Jésus a-t-il donc pensé? Le temple, c'est le plus haut lieu terrestre de rencontre avec Dieu. Et le geste de Jésus veut, me semble-t-il, remettre chaque chose à sa place, remettre l'essentiel dans le temple. Le temple comme lieu de rencontre et donc un lieu de prière. L'administration a des fois tendance à prendre une place qui ne lui revient pas. Même au conseil presbytéral, nous avons parfois l'impression de parler plus du côté matériel que des sujets spirituels. Les finances ne sont pas un but, mais un moyen. Et parfois, notre Église et nos paroisses ont tendance à mélanger ces deux choses. Le but, c'est la prière. Le but, c'est l'Évangile. Le but, c'est la vie nouvelle des hommes. C'est le royaume de Dieu. C'est la justice qui vient d'ailleurs. Et bien souvent, les soucis d'organisation étouffent l'essentiel. Les places ne sont pas respectées. Le bureau prend la place du temple. Les chrétiens deviennent des consommateurs du religieux et des spectateurs au lieu d'être des temples de prière. Et nous-mêmes. Jésus aurait-il des raisons aujourd'hui de se faire un fouet de corde et d'intervenir chez nous? Le temple que nous sommes est-il un lieu où la rencontre avec Dieu devient possible ou une maison de commerce? Les temps que nous prenons pour notre foi sont une disponibilité ou marchandage avec Dieu? Promettons-nous des sacrifices à Dieu pour qu'il réalise nos désirs et accueillons-nous comme essentiel le sacrifice unique de Dieu pour chacun de nous? Nous fonctionnons comme des temples. C'est quand nous nous croyons enfin installés dans notre foi, c'est quand nous commençons à comprendre comment ça marche, c'est quand nous envisageons d'organiser notre vie pour que Dieu soit de notre côté, que Jésus risque d'intervenir chez nous, que nous risquons d'être bousculés, renversés. Ce que nous croyons inébranlable ne l'est peut-être pas. Attendons-nous alors à être choqués, désemparés en nous-mêmes? Attendons-nous à sentir monter en nous l'envie de tuer ce Dieu qui ne nous laisse pas tranquilles et qui ne nous dit jamais clairement ce qu'il attend de nous? Ce que nous aurons mis des années à construire, peut-être viendra-t-il nous dire que nous pouvons le détruire. En 3 jours, s'il faut, il le reconstruira à sa façon. Ce Jésus qui ressuscite n'est pas seulement une jolie histoire, ce n'est pas seulement un événement qui suscite l'espérance. C'est aussi un glaive qui vient trancher en nous. C'est un tremblement de terre qui nous fera perdre nos points de repère. La résurrection brise les chaînes de la mort. Croyons-nous qu'elle nous laissera paisibles spectateurs? Non, parce que les chaînes de la mort, nous les portons aussi en nous. Et nous serons tous secoués, passés au crible, passés au feu. Le crible qui ne regarde que ce qui est bon. Le feu qui purifie. Et si nous considérons le texte de l'apôtre Paul, il nous invite ce matin à construire notre vie comme on construit un temple. Il n'y a qu'une seule chose que nous n'avons pas besoin de construire, c'est les fondations. Les fondations, c'est Jésus et nous ne pouvons rien changer. Mais là-dessus, construirons-nous avec de l'or, du bronze, du bois ou du torchis de paille? Jésus passera dans notre temple comme un feu. La passion de Jésus nous dévorera comme un feu. Si nous avons bâti sur les fondations du Christ une œuvre qui résiste au feu, nous aurons notre récompense. Par contre, si notre œuvre est brûlée, nous perdrons là notre récompense. Nous serons sauvés, mais comme un rescapé de feu, parce que les fondations sont garanties. La voix de l'esprit du mal, c'est celle qui nous embrouille. C'est la voix qui affirme que tout se vaut. C'est la voix qui mélange les places. Mais la voix de Jésus, c'est celle qui nous dit l'ordre des priorités. Il nous dit où est le but et où sont les moyens. Il nous dit ce qui suscite la vie et ce qui l'étouffe. Il nous montre la place de la prière et la place du commerce. En ce sens, nous avons 2 maîtres d'œuvre, 2 chefs de chantier pour la construction du temple. Le premier nous incite à utiliser du torchis de paille, le second nous invite à choisir l'or. Ce temple, c'est le temple de notre vie, c'est le temple de l'Église. C'est en même temps notre personne et notre communauté. La vie de l'Église et notre vie personnelle sont indissociables. C'est une seule et même construction devant Dieu. Amen.
Thank you.
vous invite à vous lever. Nous allons chanter au psaume 118. Célébrez Dieu, rendez-lui grâce. Éternel est son amour.
Célébrez Dieu, rendez-lui grâce.
Cette vie est celle à laquelle nous sommes appelés. C'est pourquoi, guidé par le peuple juif qui a préparé sa venue, éclairé par le témoignage des disciples qui l'ont suivi, porté par la communion de nos frères et sœurs dans la foi, nous croyons en lui. Et avec eux, nous le nommons Christ. Il est le Fils de celui qui nous appelle, malgré ce que nous sommes, à partager cette vie qui triomphe toujours de la tristesse et du désespoir, de la fermeture et du moralisme, de la haine et de la mort. Avec lui, éternellement vivant, avec le secours de son esprit, et avec toutes les femmes et tous les hommes, nous essayons de marcher vers la cité fraternelle, où nous pourrons contempler face à face celui qui depuis toujours nous appelle à lui, et qu'en attendant, nous nommons Dieu. Amen. Et nous chantons au 530, tous unis dans l'esprit, la première et la quatrième.
Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont en main. Gloire au Dieu. terre et les cieux, gloire au Christ éternel et l'enfer glorieux. Gloire et gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu, et le monde sauvage que nous sommes chrétiens par la